Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Alors, Matthieu 28, 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Dans Romains, s'il vous plaît, Romains, épître de Paul aux Romains, chapitre 4, verset 19. Alors, Romains 4, verset 19, « Et sans faillir dans la foi, il, Abraham, ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. » Voilà. Nous allons méditer sur ce passage simplement ce matin. J'aimerais rassembler les mots de ces courtes lectures et rappeler deux expressions qui vont nous servir à notre méditation. Nous avons lu dans la première lecture « Quelques-uns eurent des doutes » en ce qui concerne les disciples lorsqu'ils ont vu Jésus. « Quelques-uns eurent des doutes ». Et dans l'Épître aux Romains, c'est Paul qui écrit ceci en parlant d'Abraham, « Sans faiblir dans la foi, il ne douta point par incrédulité. » L'idée qui s'impose ce matin à nous, c'est le doute. Ouais. Ça nous est rappelé par deux fois dans notre récit, mais finalement, douter, qu'est-ce que c'est ? Vous savez ce que c'est que la foi. Vous savez ce que c'est que l'incrédulité. Mais douter. Vous avez une petite idée, certainement. Mais on va essayer d'approfondir la question parce que c'est intéressant. Ça se situe, si vous voulez, à mi-chemin entre les deux. Hein. Alors, ça peut être diversement vécu ou eh bien interprété. Laissez-moi vous dire que pour nous, en tant que chrétiens, le doute a une connotation, a un ressenti, peut-être nous le ressentons comme quelque chose de négatif. Souvent, nous jugeons, peut-être ceux qui ont des doutes, comme quelque chose de péjoratif. Une sorte d'ennemi de la foi, quand on parle du doute, on s'enfuit, on dit « Oh là, c'est pas tout à fait normal que je connaisse peut-être parfois le doute ». Nous considérons le doute comme un ennemi de notre paix, parce que c'est vrai que cela trouble. C'est un mal, diront certains, eh bien c'est un mal sournois qui tente de nous ravir notre sérénité. Qu'est-ce qu'on est bien dans la foi quand il n'y a pas de nuages dans le ciel. Mais il y a souvent des nuages. C'est ça la différence. Mais c'est vrai que quelquefois nous connaissons des moments où on peut dire que c'est formidable, hein. Il n'y a pas un souffle de vent, c'est comme ce matin. Hein, il n'y a pas un nuage dans le ciel, alors on est bien. Mais le doute, qu'est-ce que c'est? Et on dira, et parfois les prédicateurs ont été assez vigoureux en la matière, on a dit qu'il ne faut jamais douter, parce que c'est péché. Si vous doutez, vous irez en enfer. Ah, je suis un peu excessif là quand même. Hein. Mais quelquefois ça a été un petit peu compris comme ça, hein. Mais est-ce que tout cela est bien réel? Parce qu'on peut affirmer des choses, on peut communiquer certaines choses aux gens, mais est-ce que c'est vraiment la vérité? Parce que c'est ça ce qui est important. Et il est important que nous prenions la mesure de ce que nous enseigne la parole de Dieu sur le doute, et de ce que Jésus nous en dit aussi. Le fait de douter, et vous en conviendrez, culpabilise. Ça crée de la culpabilité chez beaucoup de chrétiens. Mais n'est-ce pas notre ignorance sur la question qui jette le trouble dans nos esprits et dans nos consciences? Parce qu'on a enseigné beaucoup sur la foi. On a dit beaucoup de choses sur l'incrédulité, parce que c'est encore autre chose, on en parlera tout à l'heure de l'incrédulité, parce que vous voulez faire de la différence. Mais souvent, on ignore. On vit le doute sans tellement l'expliquer. On vit le doute tant bien que mal. Mais on n'a jamais tellement approfondi la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, peut-être que le sujet mérite que nous le considérions. Parce que ensuite, nous aurons une juste appréciation des choses dont nous parlons, quand nous parlons du doute. Il y a des chrétiens faibles qui sont souvent dans le doute. Et puis, il y a des chrétiens forts qui ne doutent jamais. Et qui, quelquefois, ont une opinion sur les autres qui doutent, qui n'est pas forcément toujours pleine de miséricorde et d'aide et de soutien. Alors, faut connaître ce que c'est que le doute. Et après, peut-être qu'on sera beaucoup plus nuancé. Et on demandera au Seigneur qu'il nous aide, qu'il nous vienne en aide. J'aimerais dire tout de suite que le doute est une force. Ouais, c'est une force. Alors, je vais expliquer. Comme la foi, d'ailleurs, mais une force que je qualifierais de neutre. Et on va voir pourquoi. Je dirais qu'elle n'est ni bonne, que le doute n'est ni bon, ni mauvais. On va se cantonner sur cette réflexion, qui dépend du sens que nous lui donnons, de son application, du but que nous lui assignons. Et c'est vrai que, prenant cette position, eh bien, nous allons mieux comprendre que même Dieu se sert de nos doutes pour nous enseigner des choses. Pour nous conduire, le doute serait la porte de l'école divine, en quelque sorte. Pour apprendre davantage. Pour apprendre plus. Pour enraciner notre foi. Non pas pour la démolir. Mais, quelquefois, ça peut être aussi... un destructeur, nous allons le considérer. Alors, à tous ces titres, le doute peut être négatif. Il peut être positif. Il peut être paralysant. Il peut être stimulant. Il peut s'opposer à la vérité. Il peut être partial. On peut s'en servir pour juger les autres. Il peut être protecteur. Et puis, il est peut-être aussi destructeur. Alors oui, c'est pour ça que j'ai parlé de neutralité du doute. On va le mettre un petit peu entre la foi et l'incrédulité. Et on a compris ce que veut dire ces deux positions. Et le doute, on va le mettre au milieu. On l'a souvent considéré et même opposé à la foi, alors que ce n'est pas ça. Pourtant, le doute est une sorte d'épreuve, dirons-nous une forme de test permis, je dirais, j'emploierais un mot biblique, une forme de tentation permise, pour nous obliger à approfondir et à réfléchir. Eh oui, parce que Dieu nous a donné une intelligence, on ne nous a jamais demandé d'abdiquer notre intelligence. Bien que ce soit toujours le cœur, c'est-à-dire la foi dans notre cœur, la foi du cœur, qui, eh bien, prédomine. Certains doutes nous permettent de connaître plus de choses et mieux de choses. Et c'est parce que nous avons grandi aussi dans cet élément de la foi, où nous avons connu le doute, que Dieu nous a arraché de l'incrédulité pour nous amener à la foi et que nous avons aussi, eh bien là, passé par l'école divine du doute, parce qu'elle est divine, assurément, que nous avons progressé. C'est parce qu'en quelquefois, en entendant des prédications ou des prophéties ou en lisant la Bible, nous avons eu des réflexions. Et des réflexions qui nous ont posé question. Et à partir du moment où nous avons prié, à partir du moment où nous avons approfondi, alors, il s'est passé des choses. C'est-à-dire que nous avons avancé. Normalement, nous sommes faits pour avancer. Parce que cet examen-là nous oblige. Il nous force. On a parlé de la foi du charbonnier. Cette foi candide, cette foi enfantine, elle est belle. C'est vrai. Mais elle n'est pas toujours... elle n'est pas toujours là. Et puis, Dieu veut que nous allions plus loin. Que nous pensions les choses. Le doute va de pair avec, je dirais, la volonté et l'intelligence. Et ce n'est pas pour cela qu'il s'oppose au cœur. Toute la vie est grandement marquée, on peut le deviner en lisant l'Écriture sainte, par le doute. Car dans bien des cas, il est utile, ce doute est utile pour nous faire progresser, et Dieu va s'en servir. Il appartient à l'homme, en général, et vous savez, la science, les progrès de la médecine ou autre, ont été marqués parfois, et bien, par de grands doutes. Mais les hommes l'ont surmonté. Il y a eu quelquefois des temps de recul, des temps de réflexion, mais ils ont surmonté ces doutes. Et c'est ce qui a fait que, bon, bien, ils ont trouvé finalement des réponses et des solutions. Alors moi, je parlerai non seulement des hommes, mais je parlerai du croyant en particulier, de ne pas se laisser subjuguer par le doute, mais tout simplement de l'utiliser à des fins de progrès. Et si nous concevons le doute comme quelque chose qui va nous servir à avancer, alors à ce moment-là, on est dans un positionnement positif. Et non pas négatif, comme ça arrive trop souvent, au fond de nos âmes et de nos cœurs, en disant, ben non, je ne vois rien. C'est pas comme ça. Et puis je comprends rien. Et puis ceci et cela, et puis Dieu ne veut plus de moi. Et puis, toutes sortes de considérations qui viennent. Alors à ce moment-là, nous ne progressons pas. Nous descendons dans une spirale. Et nous nous enfonçons. C'est pas ce que Dieu veut. J'aimerais, si vous me le permettez, comparer le doute au vent. Ouais. Le vent peut faire chavirer un bateau, comme ça arrive, hein. Ou alors tout autant, il peut le faire avancer. Tout dépend évidemment comment nous le maîtrisons, le vent, comment les hommes maîtrisent le vent. Et nous en connaissons les possibilités, et à ce moment-là, nous allons les exploiter. Le vent peut être un mal quand il dévaste, et comme nous le voyons parfois dans certaines contrées du monde, mais il est aussi un bien quand, par exemple, il nous sert d'énergie. Donc, vous voyez, on peut toujours dire que finalement, il y a le pour et le contre dans tout ça. La Bible évoque assez peu le mot de doute. Parce que quand j'ai considéré cette étude, j'ai vu que le mot foi revient souvent. Le mot incrédulité, ou tout simplement, eh bien là, ses dérivés reviennent très souvent. Mais le mot doute, il est partout présent dans la Bible, mais il est rarement nommé. Alors, le mot douter, le verbe douter, ou le mot doute, nous nous apercevons que si finalement, eh bien là, il n'est pas à chaque page, on s'aperçoit que, cependant, l'histoire des hommes que raconte la Bible, eh bien, est pleine de la réalité du doute au fond des âmes et même des meilleurs. Je pense à Moïse, je pense à Abraham, je pense à David et à bien d'autres. On s'aperçoit que le doute est présent dans le cœur de ces grands hommes de Dieu. Et ils sont devenus des grands hommes de foi, précisément parce qu'ils ont été confrontés avec ce feu, avec cette épreuve, avec ce test. Et ils ont surmonté, eh bien, les barrières. Ils ont passé les montagnes et ils ont fait tomber les murs de Jéricho, enfin, dans leur propre cœur ou dans leur esprit. Dans l'aventure humaine, en général, il y a toujours eu des situations extrêmes, c'est-à-dire des exemples de certitude absolue, c'est-à-dire l'absence totale de doute, et je dirais que l'absence totale de doute est souvent très dangereuse. Les gens qui sont sûrs d'eux, les gens qui vous regardent dans les yeux en disant « Moi, je crois que c'est comme ça, je sais que c'est comme ça, il n'y a rien à faire », ça peut être très dangereux parce que ça a ouvert la porte au totalitarisme, au fanatisme et à toutes sortes de choses, que ce soit dans le monde politique, on connaît l'histoire. Que ce soit dans le monde social même, que ce soit dans le monde religieux, et on est en train de vivre dans notre temps. Alors, je crois qu'il faut être très nuancé lorsque nous abordons ces sujets. Parce que on en voit aussi des dégâts. Des gens qui ne doutent jamais. Souvent, ce sont des gens qui, en arrière-plan d'une technique ou d'une politique, sont de véritables rouleaux compresseurs. Et ça fait énormément de mal. On peut parler du nazisme, on peut parler de marxisme, enfin toutes sortes de choses qui ont laissé des traces dans l'histoire des hommes. Et il n'y avait aucun doute. Hein. Ils n'avaient aucun doute. Et même s'ils en avaient, de toute façon, ça passait quand même. Alors je crois que tout cela, eh bien, c'est à prendre en considération. Et on a commis des injustices monstrueuses avec cette prétention, eh bien là, à la certitude. Je crois que peut-être les hommes sont peut-être un petit peu plus nuancés aujourd'hui, quoique, dans nos pays occidentaux en tous les cas, parce que l'histoire a laissé quand même pas mal de ruines autour de cette question. Alors considérons les ravages et les résultats de leur certitude, on aurait peut-être tendance à dire à tous ceux qui ne doutent jamais, eh bien, doutez donc un petit peu et le monde s'emportera mieux, certainement. Parce que quand on voit ce qui se passe dans certains pouvoirs, on pense à l'Irak, à l'Iran, et puis à d'autres, on pourrait dire, bah écoutez, levez le pied un peu, comme ça on va respirer pendant ce temps-là. Parce que c'est pas le progrès. C'est de la régression. Dans bien des domaines. Tant sur le plan de la vie des hommes que bien d'autres choses. J'affirme que le doute a un sens positif et le doute a un allié en ce qui nous concerne, nous croyants, c'est l'humilité. Ça, je crois qu'il faut le souligner. L'humilité, et je crois qu'il est important, et il y a une nuance à souligner, douter de Dieu, de sa réalité et de sa parole s'appelle de l'incrédulité. On est d'accord ? S'appelle de l'incrédulité. Douter de Dieu, de sa parole, de ce qu'il est. C'est une attitude qui est condamnée par la Bible, et la Bible appelle, c'est un péché. Bon, les fondements sont posés de ce côté-là. Quant à douter de soi, de nos idées, de nos prétentions et autres, cela parfois est plutôt une qualité qu'on appellerait tout simplement de la modestie. Et je crois que ça doit être une des caractéristiques des enfants de Dieu. L'humilité et la modestie, d'autant si cela nous pousse à nous confier davantage dans le Seigneur. Et à partir du moment où quelquefois je me sens fragile, comme Paul le dit, mais qui peut être suffisant pour ces choses, alors à ce moment-là, je ne me confie pas dans mes expériences spirituelles, dans ce que j'ai pu vivre, dans ce que je connais, mes connaissances théologiques ou autres, mais connaissant ma faiblesse. Ça va me mettre dans une condition d'humilité qui va me faire toucher ma faiblesse, ma fragilité, et je me confierai davantage dans le Seigneur. Je me reposerai sur lui, donc ça va développer ma foi en lui. L'humilité. Le dictionnaire courant, je ne sais plus lequel, mais bon, nous définit le doute ainsi. Le dictionnaire nous parle d'incertitude. Le doute, c'est de l'incertitude. Il dira, il y a plusieurs mots en graduation, de l'irrésolution, le soupçon, du scrupule, des appréhensions, de l'hésitation. Douter, c'est être dans l'incertitude sur la réalité ou la vérité, ne pas avoir confiance en ou à, sauf à l'exception de Dieu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je peux éventuellement penser que, eh bien, certaines choses sont à prendre en considération et je peux en douter. Maintenant, nous allons dire quelques mots sur l'incrédulité, parce que pour bien comprendre le doute, il faut parler aussi de l'incrédulité. L'incrédulité qui est différente en force du doute, parce que là, c'est vraiment une force strictement négative, au sens biblique du terme. Nous voyons qu'elle est condamnée et elle est accompagnée de termes aggravants. Et nous allons prendre des paroles de l'Évangile pour ça. Le Seigneur dit « race incrédule et perverse ». Vous avez vu l'association « incrédule et perverse ». Donc il y a quand même un détournement. La perversité, c'est une déviation, un détournement. « Race incrédule et perverse, jusque à quand vous supporterai-je » dit Jésus dans Matthieu chapitre 17, verset 17. Il est dit également « Prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule », affirme le livre des Hébreux au chapitre 3 et verset 12. Que personne n'ait un cœur mauvais et incrédule. Vous voyez, toujours un petit peu cette association des mots. Encore un autre terme, une autre expression, « Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules », endurcissement et incrédulité. Actes chapitre 19, verset 9. Je termine. « Afin que je sois délivré, dit Paul, des incrédules de la Judée. Que je sois délivré. » Dans Romains chapitre 15, verset 31. Alors ça, c'est pour l'incrédulité. Qui pourrait se résumer par le refus de croire. Je refuse de croire. Je refuse d'y engager mon cœur. À la fois mon cœur, mais mon intelligence. Ça ne m'intéresse pas. Je le rejette. Donc le refus de croire est bien un péché et la Bible nous convie à nous repentir de ce péché. C'est tout le message de l'Évangile, on est d'accord. Par contre, ceux qui doutent sont traités autrement, à commencer par Jésus, à l'égard de ses disciples. Condamnation pour l'incrédulité, mais le traitement est différent pour ceux qui traversent des moments de doute. Au point où j'en suis, vous n'avez jamais douté ? Non ? Je vois que vous êtes dans une certitude absolue. Vous êtes sûr d'avoir douté. Eh oui. Alors, il y a parfois justement des reproches. Jésus fera des reproches à ceux qui doutent. Mais remarquez une chose. Il n'y a aucune sanction. Il n'y a aucune demande de repentance. Dans Matthieu chapitre 28 verset 17, il nous est dit, après la résurrection du Seigneur, le texte que nous avons lu tout à l'heure, quand ils virent Jésus ressuscité, ou le texte tout simplement, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui et ils l'adorèrent. Mais tout de suite après, et c'est curieux parce qu'après l'adoration, normalement ça devrait nous faire rentrer dans une dimension d'absolu. Eh bien, il nous est dit que ils se prosternèrent devant lui, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes après avoir adoré. C'est bizarre, hein? C'est curieux. Et aussitôt après, Jésus a dit ces paroles que nous avons lues à dessein. Il leur parla ainsi, allez, faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien. Les disciples eurent à ce moment-là des doutes, c'est-à-dire de l'incertitude qui leur a traversé la tête. Une certaine hésitation, une appréhension, mais non incrédule, parce qu'ils l'ont adoré. Ils se sont prosternés. Ils ont fléchi le genou devant leur Seigneur. Simplement, ils se demandaient, comme peut-être parfois nous le demandons nous-mêmes, ils se demandaient s'ils avaient le droit de croire au témoignage de leurs yeux, puisque quand il nous est dit, quand ils le virent. Donc, quand ils ont vu Jésus, ils ont commencé à se prosterner, à l'adorer, et après il y a eu des doutes. Et ils se sont demandés en eux-mêmes, non pas par rapport à ce qu'ils voyaient par rapport à Jésus, mais par rapport à eux-mêmes, est-ce qu'ils avaient la permission, est-ce qu'ils se permettaient eux-mêmes, finalement, eh bien là, après l'avoir vu, eh bien de le croire. Alors vous remarquerez que Jésus ne leur adresse aucun reproche à ce moment-là. Aucun reproche, mais bien plus, il les envoie en mission. Vous vous rendez compte, envoyer des disciples qui doutent? Eh bien, vous savez, c'est le Seigneur, c'est ce qu'il fait tous les jours avec nous. Hein. Il tient compte de notre faiblesse. Il va pas envoyer des incrédules. Hein. Si vous croyez pas en Dieu, enfin, ce qui m'étonnerait quand même, autrement, vous seriez pas là. Mais il va pas envoyer des incrédules. Il va envoyer peut-être des disciples fragiles, des disciples faibles, des disciples qui quelquefois se posent des questions, qui hésitent, qui ont des appréhensions, qui ont des craintes, qui ont des peurs. Mais il va les envoyer, il va leur dire, et maintenant vous allez par tout le monde, et vous allez annoncer la parole, vous allez faire des nations des disciples, et vous allez grandir justement. Et en grandissant, eh bien, le royaume aussi va s'étendre. Il n'a pas pris des super qualifiés, diplômes de théologie et tout ce que vous voudrez, non, il a envoyé de simples hommes qui avaient des doutes, et il n'aura pas fait de reproches, il leur a dit allez. Il leur a dit, non, attendez, vous savez, trois ans que vous êtes avec moi, faut bien encore compter 6 ans de préparation. Hein. Non, il les a envoyés tout de suite. Hein. Qu'est-ce que le Seigneur est bon. Hein. Parce que c'est ce qu'il fait avec nous. Hein. Et il sait que nous avons des doutes. Ça va, ça ne vous trouble pas ce que je suis en train de dire ce matin hein. Parce que souvent on a parlé de la foi, c'est bien. Mais il faut aussi parler, quelquefois, de ce que nous pouvons ressentir, nous, en tant qu'hommes, dans nos faiblesses, dans notre vulnérabilité. Et pourtant, nous sommes enfants de Dieu. Et le Seigneur continue à nous aimer. Vous avez des doutes, frères et sœurs, et vous croyez que le Seigneur vous aime plus? Eh bien, écoutez, moi je vous dis que le Seigneur vous aime encore. Bah ouais. Je suis heureux de le dire. Et si ça peut vous réconforter, le Seigneur continue à vous aimer. Parce qu'il y a longtemps qu'on ne serait plus là. Hein. Il y a des doutes où, parfois, il y a des situations où le doute peut être dangereux. Encore un autre aspect des choses. C'est ce texte qui nous rapporte la mésaventure de Pierre sur les eaux, vous savez, sur le lac. Je relis le texte. Aussitôt, Jésus étendit la main, il saisit Pierre et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Donc on voit que bon, il y avait quand même une faiblesse dans sa foi, c'est vrai, mais il lui dit, pourquoi as-tu douté? Remarquez, je voudrais quand même vous dire que Pierre était courageux de le faire. Parce que je vois si vous avez l'habitude de marcher tous les jours sur le surface des eaux. Hein? Moi, ça m'est arrivé dernièrement. C'est pas quand je rentre dans la baignoire que je me casse les dents. C'est en descendant. C'est au courant, non? Pendant les vacances. Hein? Enfin, je veux pas vous raconter mes malheurs. Mais là, c'était pourtant du bien du solide. Et boum! Je suis tombé, je me suis cassé. Bon, ça va se guérir, hein, mais j'aurais mieux fait de marcher sur l'eau du... Je me serais fait moins mal, c'est ce que ma femme m'a dit, voilà, pour me consoler. Alors, le fait de douter signifie à Pierre, mais Jésus lui tend la main. Il lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mais il lui tend quand même la main, et quand nous doutons, le Seigneur n'est pas là pour nous dire, t'es un mauvais chrétien. Tu te rends compte que tu as douté après tout ce que je t'ai dit. Après, tu connais la parole, tu l'as lu combien de fois, tu devrais plus douter une seule fois. Non, il lui tend la main. Il lui tend la main, mais pour l'aider. Et il lui indique la raison de son échec partiel. Il lui dit, mais tu sais, mon pauvre Pierre, t'as peu de foi. Mais vous savez pourquoi c'est arrivé à Pierre? C'est parce que Pierre était un homme impétueux, un homme tellement engagé, et qui, finalement, eh bien là, avait une telle volonté, une telle persuasion en lui-même qu'il arriverait. C'est pour ça qu'il a chuté. Et puis il n'a pas chuté qu'une fois. Il a chuté plusieurs fois pour apprendre jusqu'au moment où, eh bien là, le Seigneur lui dira, maintenant tu es prêt. Hein. Tu es prêt, maintenant tu peux paître mon troupeau, Pierre. Hein. Mais n'oublie pas l'amour. Hein. M'aimes-tu? Hein. Parce que ça sera la seule force qui va te garder malgré les problèmes et les difficultés que tu auras. Alors n'oublie pas ça. Douter, c'est hésiter. C'est hésiter, et il est des circonstances où, humainement parlant, cela est bien compréhensible. Et c'est vrai que quelquefois, eh bien, nous avons des moments où nous nous posons des questions. Et ce n'est pas pour ça que nous péchons pour autant. Alors bien sûr, si nous nous posons la question et que nous descendons, et que nous laissons prendre dans la spirale du doute pour nous amener jusqu'à l'incrédulité, alors là, c'est mauvais. Mais puis, par contre, je me sers du doute comme tremplin pour aller plus loin, alors c'est autre chose, parce que le Seigneur va m'apprendre bien des choses. J'aimerais voir avec vous quelques textes où le doute est assimilé aux questions que nous nous posons, nos raisonnements, une certaine logique, des évidences matérielles et humaines qui font obstacle à la foi. Alors on va reprendre dans Matthieu, chapitre 21, et verset 21, on va reprendre ça, on va faire une petite étude sur ce texte. Matthieu 21:21. Jésus leur répondit. Je vous le dis en vérité. Alors là, c'est pas mal, hein, vous allez voir. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point. Donc, voyez, c'est pas la plénitude de la foi. Mais si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez pas, non seulement vous feriez ce qui a été fait au figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ça, c'est la première proposition qui est faite. Dans maintenant l'évangile de Marc, au chapitre 11 et verset 23, il est dit aussi quelque chose d'intéressant. Alors, Marc, chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, c'est la plénitude de la foi, hein, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est extraordinaire. Hein. Vous avez déjà fait expérience comme ça? Les montagnes. Ici, on est tranquille, il n'y en a pas. Hein? Et de dire à un arbre, ben, tu te déplaces, hein, ça c'est, on est admiratif, hein, devant ces paroles, et pourtant ce sont des paroles de l'Évangile. Ça c'est clair. Devant une montagne à déplacer, qu'il y ait quelques hésitations, Qu'est-ce que vous en pensez? Elles sont légitimes, hein? Enfin, je ne sais pas pourquoi je le ferais d'ailleurs. Dans quel but? J'irais dire à une colline, tu te déplaces. Ou à un arbre, tu te déplaces. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Pourquoi on le ferait? Pour prouver Dieu? Enfin, je ne sais pas si on va prouver Dieu de cette manière. Je ne pense pas. Je crois que Jésus nous met les choses très très haut pour nous montrer qu'en tous les cas, pour lui, eh bien, il est tout puissant. C'est pour ça que nous avons lu tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et pas aux hommes. Parce qu'il y a des hommes qui se sont un petit peu mesurés à ça, pour vouloir peut-être, excusez-moi, entre guillemets, faire les malins, montrer qu'ils avaient plus de foi que les autres, et puis prouver Dieu d'une façon ou d'une autre. Et ça, à ce moment-là, ça s'appelle tenter Dieu. Ça s'appelle du fanatisme. Si c'est Dieu qui nous conduit par l'esprit, d'accord. Mais si c'est nous qui le faisons de nous-mêmes pour essayer de voir un peu comment ça marche, alors ça, c'est autre chose. Ça s'appelle tenter Dieu. Et ça, ça déplaît au plus haut point au Seigneur. C'est l'histoire des Hébreux dans le désert. Seigneur, tu fais ceci, tu fais cela. Bon, le Seigneur l'a fait. Hein. Mais par exemple avec l'écaille, ah, il voulait voir si Dieu était capable de leur envoyer l'écaille. Je peux vous dire qu'après, il les mange avec les plumes. Il n'en voulait plus. Hein. Ah oui, ça vous fait rire, mais c'est comme ça. Hein. Eh oui, parce que vous savez, notre foi, hein, elle n'est pas toujours de bonne foi. Elle n'est pas toujours saine. Elle n'est pas toujours de bonne aloi, notre foi, la foi des hommes. Pour ce qui est de la puissance infinie de Dieu, il n'y a aucun problème. Jésus lui peut déplacer des montagnes. Il peut faire mourir le figuier, enfin, dessécher le figuier et autre chose. Et il a aussi qualifié des hommes pour le faire, c'est vrai. Mais c'est quand même relativement rare. Alors, s'il ne doute pas, et Dieu nous dit, mais si tu ne doutes pas à ce moment-là, mais si nous prenons la plénitude et la totalité de ce texte dans l'esprit, alors si tu ne te poses pas de questions, il n'est pas question de figuier ni de montagne, mais il est question quelquefois de non-montagnes, et il est question quelquefois des arbres qui empêchent, avec leurs racines, finalement, de nous empêcher de prospérer dans notre vie spirituelle. Quelquefois, nous trouvons sur notre route des figuiers qui sont tellement volumineux que finalement, nous n'arrivons plus à avancer. Les racines sont complètement ont pris notre cœur et puis bien d'autres choses. Alors Dieu nous dit simplement comme réflexion, il nous dit, mais si tu ne doutes pas, si tu ne te poses pas tant de questions inutiles, parce que c'est ça le problème chez nous, hein, des questions inutiles, alors il te dit maintenant, va, tu me fais confiance et tu n'hésites pas. C'est ça le sens, s'il ne doute pas dans son cœur. C'est faire confiance toujours à Dieu. J'aime bien cette citation du psaume 37, verset 5 je crois. Mais peu importe, c'est dans le psaume 37. Écoutez, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. C'est lui qui fait les choses. Ouais. Quelle que soit la nature des choses, quel que soit, finalement, eh bien, ce que nous allons rencontrer de difficultés sur notre chemin, c'est lui. Mais moi, personnellement, dans ma position, je n'ai pas à douter, puisque c'est lui qui me le recommande. C'est lui qui me le dit, c'est pas moi. Dans la deuxième lecture, on a parlé d'un personnage. C'est Abraham. Hein, vous vous souvenez? Romain. On va parler d'Abraham. Et je relis le texte. Mais face à la promesse de Dieu, c'est-à-dire que Dieu lui avait dit, voilà, les choses se passeront ainsi. Alors, face à la promesse de Dieu, il nous est dit, c'est beau, hein, moi je trouve que ce texte il est magnifique, il ne douta pas par incrédulité. C'est curieux, hein? Douter par incrédulité. Donc, nous pouvons douter parce que l'incrédulité est dans notre cœur, mais fortifié par la foi. Voyez, la foi qui vient au secours, parfois de nos faiblesses. Alors, il a été fortifié par la foi, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a glorifié Dieu. Il donna gloire à Dieu. Ça a été pour lui le moyen de glorifier le Seigneur et de dire, Seigneur, tu m'as parlé il y a si longtemps, parce que le temps, ça use, hein. Et quelquefois, on peut oublier avec le temps. Mais Dieu lui avait parlé si longtemps, déjà. Alors, il a fait confiance, il est resté sur la promesse qu'il ne voyait pas venir pendant 25 ans, et il n'a pas douté par incrédulité. Il a été fortifié dans sa foi, parce qu'il a gardé précieusement cette promesse comme un trésor, et à ce moment-là, il a glorifié Dieu. Voilà le chemin que nous montre Abraham. C'est pour ça qu'on l'a appelé le père des croyants. Hein. Et c'est pas pour rien qu'il a ce titre. Doute et incrédulité, cause et effet. Douter par incrédulité, c'est assurément mauvais. La Bible est là pour nous le dire. Il y a d'autres raisons de douter, qui vient peut-être parfois, eh bien, nous aider à la compréhension. Ce qu'on pourrait appeler le doute par ignorance. Ouais. Il y a des choses que nous savons et des choses que nous ne savons pas. Des choses que nous croyons être et qui ne sont pas. des choses que nous avons peut-être devant les yeux et que nous interprétons, et parfois les textes de la Bible. Et nous les interprétons à notre manière. Nous les vivons dans une culture qui est une culture particulière, la nôtre, qui peut être une culture d'église, mais qui n'est pas forcément, et bien finalement, la pensée du Saint-Esprit. Toutes les religions sont là pour le dire, et qui conditionnent les gens. Et on en fait des dogmes, qui n'ont plus rien à voir avec la parole de Dieu. Douter par ignorance. Celui qui doute par ignorance, on peut dire qu'il ne sait pas. Comment peut-on croire quand on ne sait pas? Pourquoi la parole de Dieu nous dit, et c'est Paul qui nous le dit, j'espère que c'est pas trop compliqué, mais la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, donc on le sait. Et c'est parce qu'on le sait qu'on le croit. Et c'est parce que notre cœur s'engage à croire ce que nous savons. Mais il y a des situations que nous ne savons pas, parce que nous les ignorons. Alors à ce moment-là, celui qui doute par ignorance n'a pas tort d'hésiter. C'est logique. C'est de la sagesse et de la prudence que de réfléchir. C'est normal. Avant de choisir, avant de s'engager, avant de décider, eh bien là, quelquefois, il faut une réflexion. Et je suis marqué par le doute. Qu'est-ce que je fais? Je prends à droite ou je prends à gauche? C'est pour ça qu'on a inventé le code de la route. Ça facilite les choses. Ouais, mais c'est vrai. Quelquefois, je peux me trouver devant un panneau inconnu. Qu'est-ce que je fais? Je fais un bouchon. Tant que je réfléchisse et que je comprenne ce que ça veut dire. Non, c'est pas ça. Une intersection mal balisée, qu'est-ce que je fais? J'ai un doute à ce moment-là. Et c'est pas mal de m'arrêter pour pouvoir réfléchir à ce que je fais. Je vais pas m'engager comme ça. Alors, on parle de code de la route, mais ça peut être le code de la route spirituelle. Ça peut être les codes de route sur le plan moral, de l'éthique et toute autre chose. Ça, c'est le douter par ignorance. Il y a un autre cas que j'aimerais placer devant nous. C'est douter quand la conscience n'est pas éclairée. C'est pas seulement la connaissance, mais c'est la conscience. C'est ignorance coupable et volontaire de ne pas vouloir savoir quand Dieu nous a révélé clairement sa volonté. Et ça, c'est le malheur du monde. Parce que Dieu a fait clairement connaître sa volonté par la parole. Et à ce moment-là, alors la conscience refuse d'être éclairée. Elle se dit, bon, ça m'intéresse pas, et puis qu'est-ce que c'est que ce sont ces histoires? Et c'est un petit peu ce que Paul soulève lorsqu'il dit ceci. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce que sa conduite ne résulte pas de sa foi. Dixit Paul, Romains chapitre 14, verset 23. La conscience, alors à ce moment-là, va être le tribunal, en quelque sorte. C'est elle qui va siéger. Et son président, ça va être le doute. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Il y a une instruction, mais j'en fais ce que je veux. Je prends ou je ne prends pas. Mais maintenant, si je sais et que je ne le fais pas, alors à ce moment-là, je suis condamné. Ou je le fais contre ma conscience. Ça, c'était sur un fond de temple d'idole. Hein. C'est Paul dans Romains, vous comprenez. Pourtant, la parole de Dieu explique. Et quand il est dit ceci, que chacun est en son esprit une pleine conviction, à partir du moment où nous savons, à partir du moment où Dieu nous a révélé sa volonté et que nous ne voulons pas la suivre, alors ça, c'est un autre problème. Et nous sommes responsables à ce moment-là. Parce que Dieu nous a mis ce que nous avions besoin. Quand on ne sait pas, est-ce une fatalité quand Dieu nous offre la sagesse et les lumières nécessaires? Et c'est, je disais tout à l'heure, le drame du monde. Ils ont la parole de Dieu, ils ont la Bible à leur disposition, ils peuvent entendre Dieu leur parler, et Dieu sait s'il leur parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, hein. Soit à travers sa parole, soit à travers la nature, soit à travers leur conscience, d'une manière ou d'une autre. Mais ils se disent, non, pas question, je ferme, finalement, mon cœur. Celui qui doute par ignorance hésite, et je crois que celui qui doute ne demande qu'à apprendre. Et comment apprendrait-il s'il ignore qu'il ignore? Enfin, je veux pas être trop compliqué dans tout ça, parce que c'est vrai que ça va loin. Non, mais c'est vrai. Et pourtant, la parole de Dieu nous a été dit. Elle nous a été donnée, parce que Dieu a parlé. C'est pour ça que l'homme, à ce moment-là, est incrédule. C'est plus du doute, c'est de l'incrédulité. Il refuse. Pertinemment, il se dit, je sais, mais je ne veux pas croire. Et ça, c'est grave. Et quand nous entendons Jacques nous dire ces paroles, mais qu'il la demande en parlant de la sagesse avec foi, sans douter, sans hésiter, parce qu'il est bien question de doute, qui la demande sans hésiter, et elle lui sera donnée simplement et sans reproche. Mais celui qui doute dans ce cas hésite, et il est semblable au flot de la mer, il n'aura jamais de stabilité. Pour ça que le doute peut être positif, mais il peut être négatif, tout dépend du positionnement que nous prenons. Et n'allons pas dire que Dieu ne veut pas venir à notre secours de nos doutes, parce que véritablement, il veut changer nos doutes en quelque chose qui va nous faire avancer. Et cela pour nous délivrer de nos doutes et nous amener à plus de foi. Il y a également le doute qui est ici présenté comme une connotation de manque de détermination. C'est l'indécision. Il y a des gens qui sont décidés, il y a des gens qui ne sont jamais décidés. Il y a des gens qui ne savent jamais quoi faire. Ça dépend des natures et des tempéraments. Moi, j'ai connu des enfants de Dieu qui ne savaient jamais quoi faire. Pourtant, d'autres sont passés par là, dans certaines situations semblables aux leurs, mais qui, toujours en train de remettre les choses en place. Mais si je m'engage, si je fais ceci, si je fais cela, c'est de l'indécision. Alors on veut, un jour, et puis le lendemain, on ne veut plus. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire avec nous? Il ne peut pas faire grand-chose. C'est un homme irrésolu, nous dit Jacques. Ce doute-là est mauvais et paralysant. Ce peut être l'engagement pour le baptême, pour certains. Ce peut être l'engagement pour bien d'autres choses. Ce n'est pas la conviction qui l'emporte dans ce cas, mais l'émotion, c'est-à-dire le sentiment, la confusion de pensée, le partage de l'âme. Ce n'est pas la foi, parce que la foi, c'est quelque chose qui est au fond de notre cœur, et à ce moment-là, la foi entraîne la paix. Elle conduit, elle génère finalement la paix. J'ai pris une décision, ensuite je suis dans la paix. C'est le Saint-Esprit qui me donne la paix, parce que j'ai pris la décision. Mais, trop souvent, parmi les enfants de Dieu, ce n'est pas ce qu'ils savent, ce n'est pas ce qu'ils connaissent de la parole de Dieu, parce qu'ils ne l'ignorent pas. Mais c'est finalement une âme qui est trop forte, qui est trop chargée d'émotions, d'impressions, un partage de l'âme, et qui fait que finalement, ils n'avancent jamais. C'est pour ça que nous avons besoin de demander à Dieu qu'il nous rende spirituels. Soyez des hommes spirituels, et non pas des hommes émotionnels. Parce que le doute, là, il fait son nid, dans l'émotion. On ne doit pas fonctionner avec l'émotion, on doit fonctionner avec une conviction. Et la conviction vient de l'Esprit, et l'Esprit nous l'a enseigné par rapport aux promesses de Dieu, par rapport à la parole qui nous a été donnée. Et Jacques d'ajouter qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose. Et c'est vrai que parfois nous sommes conscients de voir des frères et des sœurs qui font du surplace. Et malheureusement, ils ont la même connaissance que les autres. Ils entendent la parole comme les autres, ils ont une Bible comme les autres, ils prient comme les autres, ils sont baptisés du Saint-Esprit, mais il y a quelque chose qui les invalide. Ils n'arrivent pas à se dégager parce que ils entendent, et souvent ils entendent tantôt l'un, tantôt l'autre, alors ils savent où ils en sont rendus. Mais c'est pas auprès de l'un ou de l'autre que nous devons trouver conseil, c'est auprès du Seigneur. Si nous avons des décisions à prendre, c'est pas parce que je vais faire le tour de toutes les maisons chrétiennes que j'ai autour de moi et que je vais aller de maison en maison en disant « mais qu'est-ce que vous en pensez ?» Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez avoir des avis contradictoires. Et ça, je crois que c'est un drame. Et trop souvent, le peuple de Dieu est en train d'écouter davantage les voix humaines. Peut-être sont-elles même des voix chrétiennes, de chrétiens, mais ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Alors c'est l'émotion, et on comprend qu'ils doutent en permanence. Alors ils ne peuvent rien obtenir, ce n'est pas que Dieu ne voudrait pas leur donner, mais ils ne peuvent pas obtenir, parce qu'ils sont inconstants, ils sont irrésolus. Enfin, douter a encore une autre signification. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, c'est le sens d'éprouver, de juger quelque chose, de juger quelqu'un, de faire une différence, de discerner. Je prendrai en exemple, quand Jésus parle du souci des hommes qui cultivent la terre, Jésus nous en parle, et Jacques aussi nous en parle. On appelle ça des cultivateurs, ceux qui cultivent la terre. Pour la moisson, les hommes de la terre sont préoccupés du temps qu'il fera. Alors ils examinent le ciel et font des déductions. Ils se disent, est-ce que je vais aller couper mon blé? Ils regardent le ciel, il y a des nuages. Enfin, ils en savent un peu plus que moi, parce que moi je connais pas grand-chose. Mais toujours est-il qu'ils regardent. Et il y a tout un détail, Jésus en parlera par rapport, dans l'évangile, il dira, mais si le ciel est rouge, eh bien vous dites, il y aura ceci, il y aura cela, et puis etc. Et puis je crois que ça a perduré, parce que les hommes font encore la même chose aujourd'hui. Alors ça fait partie de l'expérience, et l'expérience les aide, ces hommes. il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner, nous dit Jésus, vous savez discerner, c'est-à-dire vous savez juger. Vous savez éprouver l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. C'est ce qu'il leur reproche. Quel temps fera-t-il ? Alors ils doutent, avant d'aller mettre la faucille dans le champ. Cet examen est provoqué par une interrogation. Une hésitation, c'est-à-dire un doute. Ils ont un doute, ils se disent, ben voilà, moi si je coupe mon blé et puis que demain il pleuve, eh bien tout est perdu. Une année de perdu, donc ils ont un doute. Ce que Jésus suppose. Ce qui est extraordinaire, c'est que les hommes doutent pour des choses secondaires, cependant, en ce qui concerne les signes des temps, ils ne se posent même pas la question. C'est ce que Jésus veut faire ressortir. Cela les intéresse même pas. Et pourtant, les signes des temps sont probants autour de nous. Quand on voit ce qui se passe dans notre monde, quand on voit l'orage qui se prépare, quand on voit un petit peu de droite et de gauche, eh bien, les nations qui s'agitent, ça n'intéresse personne. Oh, ils se disent, mais le monde continuera comme il a toujours continué, et puis, bon, on continuera comme ça, et ça ne les intéresse pas, c'est ce que Jésus veut leur montrer. Cette attitude déconcertante et inconsciente même, finalement, devant les dangers qui les guettent. La nature des temps spirituels qu'ils vivent ne les préoccupe pas, nous dit Jésus. Alors Jésus leur dit, il leur reproche de ne pas douter. Il les encouragerait presque à douter, finalement. Si vous doutiez un peu, bien vous verrez que, d'ici quelque temps, la société dans laquelle on est sur le plan moral, sur le plan spirituel, et ceci et cela, devrait vous amener, finalement, à prendre une position par rapport à moi, et par rapport à mon royaume, par rapport à la foi. Mais ils n'en doutent pas. Ils se disent, mais nous avons nos politiques, nous avons ceci, nous avons cela, et puis ça continuera comme ça, il n'y a aucun problème. Alors les problèmes, il y en a un. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Jésus leur reproche de ne pas douter dans ces cas. Dans un autre passage, le doute a un sens péjoratif qui détruit la relation fraternelle. Oui, et ça, c'est pas bien. Quand Paul écrit ceci, je crois que c'est dans les Corinthiens, « Car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Et d'ajouter ceci dans toujours la même épître, « Toi, qui es-tu qui juges ton frère ?» Et là, Paul suggère aussi le doute. Ici, le doute s'exerce à l'encontre d'autrui, à l'encontre de mon frère, de ma sœur. J'ai un doute sur celui-ci, sur celle-là. Je ne m'interroge pas sur moi-même, parce qu'il n'y a aucun doute, je suis dans le vrai. Je suis le plus beau, je suis le meilleur, je suis en direct avec le Seigneur, j'ai tout compris de la Bible, figurez-vous. Mais quand je regarde mon frère, je me dis, mais alors, oh là là, qu'est-ce qu'il a du retard? Pas seulement occulte, hein. Je n'ai aucun doute sur moi, mais par contre, et ça manque de bienveillance et de charité. Je suis tellement sûr de moi-même, mais sur mon frère, j'ai des doutes sur ce qu'il fait, sur ce qu'il est, sur sa vie spirituelle, sur son avancement, sur ceci et cela, je le fais sans bienveillance. C'est bien mal. C'est là où nous sommes peut-être un peu repris. Parce que quand on parle de doute, quelquefois nous aurions à douter un petit peu plus de nous-mêmes et faire confiance un peu plus aux autres. Paul l'enseigne, dans Romains. Quand il parle d'avoir de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même. C'est vrai que quelquefois, avec les années chrétiennes, nous pouvons dire, ah ben oui, mais vous savez, moi, après tant d'années chrétiennes, le Seigneur m'a appris tellement de choses. Je sais tellement de choses. Ben oui, mais on ne sait rien, frères et sœurs, il faut bien le dire. Même après 50 ans de vie chrétienne, on ne sait pas encore grand-chose. On est encore des enfants. Et ça va nous aider, peut-être à aimer nos frères et nos sœurs. Et non seulement à les aimer, mais à les aider. Parce que tout est dans nos relations une question de bienveillance, de rapport. Hein. Quelquefois, on a de mauvais rapports les uns avec les autres, on est chrétiens les uns avec les autres. Mais il faut dire qu'on ne les aide pas beaucoup, parce que la manière dont on les aborde et la manière dont on les parle, ils se tiennent à l'écart. Pourtant, à ce titre, Paul dit ceci, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés par le Seigneur. Ouais. » Vous connaissez l'histoire, j'ai jamais su dans quel sens on le mettait, la paille ou la poutre. Hein, c'est vrai. Alors, Quelquefois, je suis rempli, excusez-moi, je vais être un petit peu vulgaire, je suis bourré de doutes par rapport à mon frère et mes sœurs, mais je doute pas de moi-même. Alors que quelquefois, je ferais mieux de redouter un petit peu de moi-même. Même de mes expériences, de mes assurances, puis d'aimer un peu plus mes frères et mes sœurs. N'est-ce pas une invitation à douter, à se juger, à se mettre soi-même en doute? C'est pourquoi Paul écrira toujours dans Corinthiens, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi, dans la vraie foi. Voilà un examen utile, sinon indispensable, afin de ne pas tomber dans le travers facile de la suffisance, de la supériorité à nos propres yeux, laquelle n'a qu'un nom, c'est de l'orgueil spirituel. Comme ça qu'on appelle ça, l'orgueil spirituel. Et je termine. Il y a des doutes salutaires, des doutes obligés et nécessaires. Chaque fois que l'Église se rassemble, comme ce matin par exemple, nous avons un temps de foi intense en Christ. Est-ce qu'on peut appeler ça un temps de foi intense en Christ, en Jésus-Christ? Mais en même temps, nous sommes invités au doute, à l'examen par rapport à nous-mêmes. C'est le repas de Sainte-Cène. Le repas de Sainte-Cène n'est pas magique. Il n'est pas opus operatum, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je prends le pain et le vin, je suis un saint. Et puis, que finalement, eh bien là, je suis en ligne droite, en direct avec Dieu. Non. Quand on lit les textes de ce repas de Sainte-Cène, nous sommes invités à douter. Non pas du Seigneur, non pas de ce sacrifice, non pas des retombées universelles, finalement, de son sacrifice expiatoire, mais de douter de nous-mêmes, à un examen, douter de soi pour se comparer au divin et parfait modèle. Voilà un doute positif et correcteur, mais si nous le voulons, c'est pour ça qu'il est dit, eh bien, que nous avons besoin de nous examiner. Et c'est en raison de cela que Paul ajoutera dans Corinthiens, mais c'est pour ça que parmi vous, il y a des malades, il y a des infirmes et que certains sont morts, parce qu'ils ont oublié de s'examiner eux-mêmes. Je termine. Par ailleurs, en ce qui concerne les dons spirituels et leur exercice, Paul déclare que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Ils sont appelés à juger. Vous rendez compte? Ils sont appelés à douter. Non pas du Seigneur, mais de voir si finalement les choses qui sont dites sont en pleine conformité avec la pensée de l'Esprit. C'est pour cela que dans les églises, il y a des dons spirituels qui ne sont pas spirituels et des dons spirituels qui sont spirituels. Je ne sais pas si vous y comprenez quelque chose. Il y a des vecteurs, hommes et femmes, frères et sœurs, qui sont spirituels et qui vont donner des dons spirituels, et des hommes et des femmes qui sont charnels et qui vont peut-être donner des dons spirituels, mais qui vont être imprégnés de charnel et qui vont déprécier le don spirituel et la parole que Dieu a donnée, et qui finalement, eh bien, vont amener aussi un discrédit. Et c'est bien dommage. En d'autres termes, qu'ils mettent en doute quand il y a prophétie, qu'ils mettent en doute, qu'ils éprouvent, qu'ils discernent spirituellement. Le doute apparaît dans ce cas comme une fonction nécessaire de contrôle. Parce que vous savez, les spirituels, on a entendu des vertes et des pas mûres. Dans l'exercice du ministère, on en a entendu, il y avait des très bons dons spirituels. Et moi, je bénis le Seigneur de faire partie justement d'une église où il y a, eh bien, là, le souffle de la Pentecôte. Et il y a eu des dons spirituels pour les autres, pour moi-même, magnifiques, extraordinaires, qui ont transformé la vie d'hommes et de femmes, dans la consolation, dans l'exhortation, dans toutes sortes de choses. Mais on en a entendu d'autres, je peux vous dire. Et quand on n'a pas le discernement, et quelquefois les églises n'ont pas toujours ce discernement, on a senti que ces dons spirituels étaient charnels. C'est pas que Dieu n'a pas voulu parler, mais faut voir un peu comment les choses ont été faites. Alors à ce moment-là, vous savez, les gens qui sont spirituels, ils le ressentent. On peut pas dire amen à ce genre de don. On dit, il y a quelque chose. Ah, c'est une histoire montée, c'est de l'imagination, c'est de l'âme, c'est du sentimentalisme, c'est de l'émotionnel. Même s'il y a une parole quand même derrière. Mais on sent que derrière tout ça, ou alors la personne donne des dons spirituels pour se faire valoir en disant, je suis prophète de l'Église, je suis prophétette de l'Église. Bon, alors on arrête ça. Parce que le Seigneur peut se choisir n'importe qui dans l'Église pour prophétiser. Les uns et les autres. Le plus petit jusqu'au plus grand. Je parle de grandeur, hein, pas de réputation. Ouais. C'est ça justement, et nous sommes, nous en tant qu'Église, eh bien appelés à juger, donc quelque part, à faire œuvre de nécessaire de contrôle pour faire face aux débordements et aux contrefaçons possibles. Parce que quand il y a des choses qui partent de travers, eh bien ça emmène toute l'Église aussi de travers. C'est pour ça que nous avons besoin, et c'est pas seulement le rôle du pasteur qui est conducteur du culte, mais c'est aussi le rôle des frères anciens, c'est aussi le rôle de vous et les uns et les autres dans les rangs pour dire, eh bien voilà, bon, d'accord, ce matin, il y avait quelque chose qui était, on peut dire amen, mais quelquefois, on peut pas toujours dire amen dans certaines, je parle pas de Saint-Nazaire, mais quelquefois, on en a entendu, hein. Où on se dit, mais c'est pas vrai. Ça n'a plus rien à voir avec la pensée du Seigneur. De même et brièvement, le discernement de la vérité, la parole de Dieu à l'appui, comme les Béréens le faisaient. Vous rendez compte, les gens de Béré, nouvellement convertis, ou en voie de se convertir, mettaient en doute Paul. Ah oui, c'est comme ça, hein. Et vous savez comment ils ont fait? L'homme qu'ils ne connaissaient pas, c'est Paul. Mais ils regardaient tous les jours les Écritures pour savoir si Paul, ce qu'il leur disait, était exact. Ils mettaient en doute. Jusqu'au jour où ils sont arrivés à la conviction et à la conclusion que Paul était un homme de l'esprit, un homme de Dieu. Discernement également de la nature des esprits. Quand dans Jean, chapitre 4 et au verset 1er, il nous est dit, 1 Jean, épître, quand il est dit ceci, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, etc., etc. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc, nous avons besoin, là aussi, la parole de Dieu nous encourage à mettre le doute. Un doute positif, c'est pas pour tout casser et tout démonter, mais d'exercer finalement ce que Dieu nous a donné, si nous sommes remplis du Saint-Esprit et que nous fonctionnons par l'Esprit de Dieu. C'est un antidote à la crédulité. Parce qu'on a parlé de l'incrédulité, mais la crédulité, ça existe. Et quelquefois, ça existe dans le peuple de Dieu, la crédulité. On croit n'importe comment, on croit n'importe quoi, on ne croit plus à la parole de Dieu, mais on croit des histoires et des falaises. Excusez-moi, je le dis. Et ça, c'est un antidote. Fruit test, et non pas les œuvres. Fruit test. Jésus, en ce qui concerne les faux prophètes, ne nous enseigne pas de juger sur les œuvres, parce qu'il y a des œuvres, quelquefois à profusion, même miraculeuses et surnaturelles, mais il nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quels sont les fruits qu'il y a derrière? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la paix? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que cela procure l'unité? Est-ce que cela rassemble le peuple de Dieu? Est-ce que cela, eh bien, entraîne la foi et la fidélité? Est-ce que cela, eh bien, a des fruits de maîtrise de soi, de tempérance, de bonté, de patience, et puis, bien d'autres choses, de douceur? Ça, c'est le fruit. Faut pas confondre, hein. Beaucoup parmi les enfants de Dieu, eh bien là, font la confusion entre les œuvres et les fruits. Mais ça, c'est un fruit test. Mise en examen, mise en doute. Ensuite, suivi d'un jugement, selon la vérité des faits, éclairé par le Saint-Esprit, pour nous amener à une conviction. Le doute n'est pas fait pour nous casser, le doute est fait pour nous amener à des convictions, frères et sœurs. Et l'Église a besoin d'avoir des convictions. Et nous allons travailler à cela, parce que c'est le but de l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, je termine, le doute, est-ce qu'il est votre ami, ou est-ce qu'il est votre ennemi? La question, vous pouvez y répondre. C'est à vous de juger. Vu comme nous l'avons vu ce matin avec l'optique de Dieu, moi le doute ce n'est pas un ennemi, c'est un ami. Et il va me donner de progresser et d'aller plus loin. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce, et nous allons prier quelques instants s'il vous plaît. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et nous voulons te remercier Seigneur parce que ce sont des choses Seigneur qui provoquent notre réflexion. Et c'est vrai que tu veux que ton Église soit nourrie avec de la substance. Comme l'apôtre le rappelait hier aux Hébreux, qu'en effet, Seigneur, les chrétiens de ce temps ne pouvaient pas manger de nourriture solide, spirituelle, mais ils en étaient encore au lait. Ils étaient encore à la nourriture des nourrissons sur le plan spirituel. Et tu veux nous amener, Seigneur, à pousser les choses un petit peu plus loin. Qu'en effet, Père éternel, que ton Église ne vive pas, Seigneur, uniquement sur des impressions et des émotions, avec ce qu'elle entend, ce qu'elle voit, à travers tout un tourbillonnement de choses à l'extérieur, et tu veux que ton Église et le cœur de ton peuple soient fondés, Seigneur, avec de véritables convictions. Non pas, Seigneur, pour que nous tombions dans une conception d'absolutisme, de fanatisme, et, Seigneur, en effet, Père éternel, d'exclusion, mais que nous puissions véritablement, eh bien là, avec une saine connaissance, en ayant pesé le pour et le contre, le bien et le mal, la vérité et l'erreur, la justice et l'injustice, le pur et l'impur, le profane et le sacré. Alors à ce moment-là, Seigneur, parce que nous aurons pensé, Seigneur, à ces choses, parce que le Saint-Esprit nous aura donné de penser à ces choses, eh bien que nous arrivions, Seigneur, à une pleine maturité, à une maturité d'homme fait en Jésus-Christ. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur. Merci parce que nous voulons nous souvenir qu'hier, tu nous as arrachés à notre incrédulité. C'est vrai. Lorsque nous étions sans Dieu et sans espérance, nous étions incrédules. Nous avions bien des réunions religieuses, mais Seigneur, ce n'était pas pour cela que nous avions véritablement, eh bien là, au fond du cœur, la certitude de notre salut. Nous étions donc incrédules. Et c'est encore toi qui as fait le premier pas vers nous. Tu nous as amenés, Seigneur, véritablement à la découverte de la foi. Tu nous as pas laissés dans l'ignorance, parce qu'avec la connaissance, eh bien, tu nous as donné, Seigneur, de croire. Parce que nous avons su et nous avons cru, Seigneur. Et nous te bénissons de nous avoir donné ta parole. Merci de nous avoir donné Jésus-Christ, la parole vivante, la parole, le Verbe incarné. Et nous voulons, Seigneur, maintenant, si nous passons par des temps de doute, d'hésitation, eh bien, tu veux, Seigneur, que de deux chemins, nous choisissions celui qui élève, celui, Seigneur, qui mûrit, celui qui progresse, celui, Seigneur, qui nous fait regarder vers le haut, vers Dieu, devant lequel nous n'avons absolument pas à douter aucunement, parce que, Seigneur, tu es Dieu, tu ne te trompes jamais, tu ne mens pas, Seigneur, tu es la vérité et tu tiens parole. Mais, Seigneur, quelquefois, nous-mêmes, par rapport à tout ce qu'il peut y avoir de culturel, d'éducation, de choses qui font partie, Père éternel, de notre vie, alors parfois nous demandons de nous remettre en cause, de mettre en doute certaines choses, pour vérifier, Seigneur, si elles sont charnelles, si elles sont tout simplement religieuses, si elles sont émotionnelles, ou si tout simplement elles sont spirituelles, si elles viennent du Saint-Esprit. Et c'est à cela que tu veux nous conduire. Alors merci, Seigneur, merci parce que nous avons tous les uns et les autres à un moment ou un autre traversé le doute, sur des grandes questions de doctrine peut-être. Sur des grandes questions de notre vie, nous avons traversé le doute. Mais Seigneur, tu as eu de la patience avec nous. Nous nous sommes débattus, Seigneur, quelquefois dans certains marécages. Mais Seigneur, tu nous en as tirés. Et en effet, Père éternel, tu nous as éclairés. Et à partir du moment où nous avons été, Seigneur, eh bien éclairés par ta grâce et secourus, comme tu l'as fait en tendant la main à Pierre, alors à ce moment-là, nous n'avons plus remis en question. Ce sont des problèmes qui ont été réglés. Ils sont derrière nous et pour nous, c'est maintenant devenu des véritables convictions que nous ne remettons pas en cause. Alors Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Je te prie particulièrement pour mes frères et mes sœurs qui ont un tempérament et un caractère à douter, qui sont là fragiles, qui sont là sensibles, qui ont, Seigneur, tendance à beaucoup plus écouter leur âme, leur cœur, le sentiment, l'émotion, les impressions que véritablement, Seigneur, la parole de l'Esprit, Seigneur, parce que tu leur parles au fond de ton cœur, de leur cœur. Alors révèle-toi et manifeste-toi. Et nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous donnes les uns et les autres un regard bienveillant. Parce que celui qui doute, eh bien, c'est qu'il cherche. Il cherche, et moi, je veux l'aider à trouver vers le haut. Et non pas, Seigneur, à le culpabiliser, parce que, en effet, Père éternel, eh bien, c'est lui qui va véritablement, eh bien, aller vers toi. Et moi, je veux simplement te prier pour qu'il vienne vers toi, pour avoir de véritables certitudes, de véritables convictions. Seigneur, je veux aider mon frère et mes sœurs qui doutent. Et ainsi, Seigneur, l'amener véritablement, Seigneur, à trouver en toi la paix, à trouver des certitudes. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tu bénis ton peuple à travers cet enseignement. Et tu nous fais du bien, Seigneur, parce que c'est un enseignement que je veux positif, que je veux, Seigneur, productif, que je veux spirituel. Merci, Seigneur, parce que c'est ta parole. Merci, Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.